MCITV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, pour cette dernière journée de la semaine, on s'adresse à tous les couples qui nous suivent et qui sont en attente d'une grossesse. Ça fait peut-être plusieurs mois, peut-être plusieurs années que vous attendez de vivre cette grossesse. Eh bien, aujourd'hui, on va non seulement vous encourager à la foi et à croire que Dieu peut faire des choses extraordinaires, mais aussi à vous partager peut-être des stratégies auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé. Et je serai avec Annabelle et Frank pour cette émission. Vous allez bien ?
Oui, très bien.
Vous deux.
Oui, Frank, t'es content de participer à cette émission ?
C'est une belle émission.
C'est une belle émission. T'as deux enfants, Frank ?
Ouais, deux garçons.
Deux garçons, c'est ça. Frank est un expert en grossesse.
Ouais. En tout cas.
Aujourd'hui, on aura également un C'est mon histoire. C'est un C'est mon histoire de Jean-Jean qui était avec nous ces derniers jours. Jean, avec son épouse, ont vécu cette attente que vous traversez peut-être et vous allez voir que le Saint-Esprit donne de très bonnes stratégies parfois, des stratégies qui peuvent même être surprenantes. Il nous partage tout ça dans la rubrique C'est mon histoire tout à l'heure. Mais pour l'instant, on commence avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour.
Être en attente d'une grossesse, c'est souvent des moments assez difficiles. Une fois qu'on a passé le stade des premières fois où on se dit « bon, on veut voir si ça marche », etc. Mais là, ça devient lourd et puis chaque mois, c'est une déception. C'est même beaucoup de tristesse et surtout quand les mois se succèdent les uns après les autres, on peut être assailli par toutes sortes de pensées et par toutes sortes d'émotions. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler que Dieu ne vous a pas oublié. Non, Dieu ne vous a pas oublié, il a un plan pour vous et c'est son désir aussi de pouvoir répondre à cette prière qui est la vôtre. Et j'aimerais vous lire au psaume 113, ce verset, psaume 113, verset 9, il donne une famille à celle qui était stérile, il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louer l'Éternel. Et chaque mot de ce verset est important, y compris la dernière partie. Louer l'Éternel. Oui, Dieu veut faire de moi une mère joyeuse. Non, je ne serai pas stérile, mais maintenant, mets ta foi en action et commence à le louer. Oui, il y a eu des déceptions. Oui, il y a des moments de découragement. Il y a des paroles de découragement. Peut-être votre docteur vous a donné un diagnostic qui est totalement décourageant et fataliste. Mais aujourd'hui, je vous encourage ensemble, en couple, à louer l'Éternel, à vous rappeler qui est ce Dieu qui donne la vie à des enfants qui ne naissent pas de la volonté d'un homme et d'une femme, mais qui naissent de sa volonté à lui. Lui qui est le Dieu de la vie, lui qui est capable de ressusciter les morts, il est capable de ressusciter dans votre corps tout ce qui ne pouvait pas porter la vie jusqu'ici. Il est ce Dieu vivant. Et aujourd'hui, alors que vous êtes en train de louer l'Éternel, ça va vous faire du bien, ça va vous relever vous-même depuis tous ces mois, ces années où vous commenciez à être abattu et ce manque de joie, cette tristesse commençait même à se répandre dans tous les domaines de votre vie. Alors aujourd'hui, oui, vous êtes dans l'attente d'une grossesse, mais Dieu est Dieu et Dieu est bon, Dieu est fidèle et je crois que c'est le jour de se rappeler de qui est Dieu et de passer ce moment avec lui pour le louer de tout votre cœur, peut-être comme vous ne l'avez pas fait depuis longtemps. Et oui, vous avez fait beaucoup de prières pour cet enfant, pour cette grossesse. Et il n'y a pas de souci à prier. C'est très bien de prier et de demander à Dieu ce dont nous avons besoin, les choses que notre cœur désire. Mais c'est aussi important de pouvoir le louer parce que ça va faire naître en nous la foi, ça va faire naître en nous la joie, ça va nous garder ou nous ramener dans une position de paix. Alors ne passez pas à côté de cette bénédiction. Priez pour votre grossesse, mais n'oubliez pas, louez Dieu. Louez-le chaque jour de votre vie, car il est bon et nous avons besoin de nous en rappeler. Nous avons besoin de le rappeler à notre âme, particulièrement lorsque nous vivons ces longues attentes et une attente concernant une grossesse qui peut être difficile pour les émotions. Louons Dieu, il est bon, il est fidèle et il va agir.
Amen, il est fidèle, amen, vraiment. Et quand on parle d'attente, on a toujours cette notion, je sais pas, c'est comme on attend le bus, on attend le train, c'est comme si on peut rien faire, une attente un peu passive où on attend. Mais en fait, il y a une attente active à avoir dans la foi. Et c'est vraiment cette différence que j'avais vraiment à cœur de pouvoir faire aujourd'hui, c'est que il y a une attente passive où on dit Dieu va faire un jour, on croit que ça va arriver, mais on est juste en train d'attendre. Et il y a une attente active dans la foi qui va chercher la promesse, qui va passer à l'action, qui va vraiment aller avec la main de la foi, le bras de la foi, arracher ses promesses. Et parfois, il y a un combat spirituel qui peut jouer. Parfois, on a besoin de recevoir une parole, une vraie parole du Saint-Esprit sur laquelle on va s'accrocher notre foi, on va bâtir notre foi. Il y a différentes stratégies, différentes façons dont Dieu va pouvoir passer pour pouvoir nous faire jaillir cette foi nécessaire qui va aller chercher cette promesse. Et c'est ce qu'a fait Anne, la maman de Samuel. On sait que Anne, elle était dans cette longue attente, elle a attendu tellement longtemps, elle soupirait et elle a même fait un deal avec Dieu à un moment donné, et ce deal avec Dieu a changé la donne et elle est tombée enceinte juste après ça parce que Dieu avait un plan particulier pour Samuel. Je vous laisse regarder avec moi notre verset du jour qui est justement dans 1 Samuel 1 au verset 27. Et Anne a dit « C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. » Anne a pu faire cette conclusion. Elle a su que quand elle a fait cette prière à Dieu, elle a parlé de cet enfant, c'était cet enfant-là qu'elle avait aujourd'hui et elle a tenu cet engagement aussi qu'elle avait pris envers Dieu. Elle dit un peu plus loin qu'elle va prêter Samuel pour toute sa vie en fait à l'Éternel. C'était l'engagement qu'elle avait pris envers Dieu. Et Anne a fait cette prière de foi où elle est passée à l'action, puis elle a dit « Je vais aller arracher mon miracle, je vais aller récupérer ce que Dieu a prévu pour moi. »
Tu parlais d'attendre l'autobus.
Oui.
Et il y a quelques temps, eh bien, j'attendais un bus. Et oui, ça m'arrive rarement d'attendre le bus. Mais j'attendais un bus et il passait pas, il passait vraiment pas, ça faisait longtemps. Mais des bus passaient et ne s'arrêtaient pas devant l'arrêt de bus. Et puis j'ai regardé un peu plus loin, vraiment à quelques mètres, il y avait un arrêt de bus où il y avait des gens qui montaient régulièrement dans un bus. Et là, en fait, je me suis dit, bon, je suis dans un arrêt de bus, c'est vrai, il y a normalement un bus qui devrait s'arrêter, mais pour une raison que j'ignore, le bus ne s'arrête pas. Mais là, j'ai juste quelques pas à faire et je vois que ces gens-là montent dans le bus. Donc, je sais pas pourquoi je suis restée attendre aussi longtemps, mais quelquefois, on est dans notre vie, on a un endroit, et puis on est tellement persuadé qu'on doit être là, on ne se remet pas en question, ça ne fonctionne pas. Il y a rien. Puis tu regardes à droite, à gauche, ça fonctionne. Je me suis dit, bah, Annabelle, juste déplace-toi.
T'es au mauvais arrêt de bus,
oui,
en fait.
Franchement, je ne sais même pas pourquoi les bus ne s'arrêtaient pas. Ça se trouve, c'était un vieil arrêt de bus. Et puis maintenant, bah, tout le monde savait que c'était à l'autre arrêt qu'il fallait aller. Je suis allée à l'autre arrêt, finalement. Et puis, bah, j'ai pu monter dans mon bus et j'ai pu partir. Et bah, je crois quelquefois, quand on est dans des longues attentes, y compris des attentes de grossesse, on est très passif, on peut être très passif, on reste exactement au même endroit à faire les mêmes choses, tant au niveau spirituel que dans le naturel. Et puis bah, le bus passe, mais c'est comme on n'arrive pas à y monter. Et c'est peut-être le temps de demander au Saint-Esprit, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je fais la bonne chose au bon moment? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut changer? Est-ce qu'il n'y a pas une autre stratégie? Et de pas non plus... c'est spirituel, mais de pas tout spiritualiser dans le sens, au nom de Jésus, je vais avoir un enfant, parce que s'il y a des ajustements à faire dans ma vie, de changer d'arrêt de bus, ça veut pas dire changer de mari, c'est du tout ce que je dis, c'est juste de changer certaines choses dans notre vie, une alimentation, une habitude de vie, peut-être c'est d'aller faire un check-up chez le médecin, parce qu'il y a juste un petit ajustement à faire, pourquoi ne pas le faire, en fait.
Exact.
Ouais, il y a aussi... le fait que quand on est dans cette attente-là d'un enfant et que, voilà, ça prend plus de temps parce qu'il y en a même qu'ils ont eu un enfant et c'est allé très vite.
Oui.
Et un deuxième, c'est compliqué.
Effectivement.
Et en fait, je veux vraiment exhorter chacun de vous à ne pas voir l'autre dans le couple comme une espèce d'ennemi ou de c'est sa faute. Parce que dans une telle situation, on peut se poser toutes sortes de questions. Venir que ben c'est doit être de ta faute, moi pourtant la première fois y a pas, et là on entre dans une mentalité où est-ce que on n'est plus une équipe avec un même but, mais on est frustré En fait, même toutes, je pourrais dire comme quasiment toutes nos journées et toute la vie tourne autour de cet échec-là. Et on devient aveuglé et on devient accablé par le manque de grossesse qu'on pourrait vivre. Alors que, et ce n'est pas une parole dure du tout que je dis, il y a quand même la vie qui continue. Peut-être que, comme j'ai dit, vous avez déjà un enfant et puis ça fait peut-être un an et demi et l'atmosphère dans la maison est rendue désagréable et même cet enfant-là en subit les conséquences. Il y a une vie autour de nous, il y a des gens au travail et vous avez un mari, une femme qui est là, qui n'est pas la source du problème. Mm-hmm. Et même si un des deux aurait naturellement un truc, ça ne fait pas de lui un ennemi ou quelqu'un qui... En fait, il ne faut pas oublier ça et je veux prier au nom de Jésus qu'il puisse y avoir une paix qui s'installe si c'est le fait. Oui. Si c'est la situation que vous traversez. Soyez ensemble, soyez unis, mettez-vous d'accord, mettez-vous dans la foi et à un moment donné, la percée a lieu. Comme on le dit, nous, on encourage toujours à la foi. Mm. On veut croire avec vous, on veut vous encourager à ça. Mais ce n'est pas parce que ça n'arrive pas qu'on doit avoir une vie pourrie, même si c'est compliqué et même si c'est difficile. Je ne veux pas être dur là-dedans, mais voilà un peu l'exhortation que j'avais sur le cœur pour aujourd'hui.
Mais c'est important, hein, parce que c'est des épreuves pour les couples. Ouais. Ça divise beaucoup. Vous savez que c'est un sujet, moi, qui me touche personnellement, puisque j'ai obtenu la percée deux fois, parce que j'avais un diagnostic d'infertilité qui avait été posé sur moi. J'ai pas eu à prendre de médicaments, mais le diagnostic peut vraiment avoir un effet dévastateur dans la vie du couple, parce que tout à coup, effectivement, il y a un coupable, entre guillemets. On sait pourquoi ça marche pas. Mm-hmm. Tant qu'il n'y a pas de diagnostic, on est toujours un petit peu dans le doute, mais quand le diagnostic est posé, tout à coup, ça va être la femme, ça va être l'homme, parfois les deux, c'est plus rare. Et puis, on peut se tromper d'ennemi, on peut se tromper de combat. Et c'est hyper important ce que tu dis. Et je crois vraiment, oui, il faut fonctionner dans l'unité, dans le couple. Mais vous pouvez vraiment demander aussi au Saint-Esprit quelle est sa stratégie. Mmh. Et comme Annabelle l'a dit, il y a des choses naturelles parfois que vous pouvez poser dans votre vie. Et des choses surprenantes. Mais peut-être que votre cycle, madame, n'est pas normal. On dit qu'on ovule à telle date, mais peut-être que votre cycle est complètement différent et que vous allez ovuler beaucoup plus tard ou beaucoup plus tôt. Et vous passez à chaque fois à côté de la bonne date parce que vous avez tellement tout calculé, que tout est tellement chronométré, peut-être que vous devez simplement demander au Saint-Esprit quelle est sa stratégie par rapport, oui, à votre alimentation, ou simplement peut-être que vous prenez un traitement médicamenteux en ce moment qui nuit à votre fertilité, mais vous ne le savez pas, donc peut-être qu'il faut réajuster les choses. Ouais. Il y a tellement de choses également naturelles. Et quand on en arrive au pied du mur où il faut un miracle, il en faut un parce que le diagnostic est tombé, eh bien, la foi est disponible. La foi est vraiment disponible pour venir prendre le relais, pour venir pallier aux solutions naturelles que vous auriez peut-être exploitées et qui n'ont pas fonctionné. La foi est disponible pour que Dieu intervienne surnaturellement et opère ce miracle en vous qui vous donnera cette grossesse.
Et on a fait toute une série avec Anne Carnizan, dans Parole de femme. Et Anne explique à travers son parcours comment elle-même, tous les mensonges sont tombés par rapport à la stérilité, par rapport à la bonté de Dieu, comment elle est passée à travers aussi des traitements médicaux, puis finalement, comment elle est tombée enceinte surnaturellement en dehors des traitements médicaux, des interventions, etc. Donc, je vous encourage vraiment à aller regarder cette émission, cette série Parole de femme, Naissance surnaturelle, je crois que ça s'appelait, avec Anne Carnizan. Et puis, d'ailleurs, on avait fait un témoignage d'une femme qui, en suivant cette série, a reçu la révélation et elle s'est mise en la foi et elle est tombée enceinte après elle-même aussi avoir reçu un diagnostic d'infertilité. Oui. Donc Dieu fait des miracles, Dieu agit, mais qu'il vous donne votre sa percée en fait dans ses conditions à lui et ne soyez pas trop fermé au niveau de ce que Dieu veut faire et comment il veut le faire.
Exactement. Et je pense que ce n'est pas tout à fait le titre de la série de Anne Carnizan.
Oui, peut-être vaincre la stérilité.
Vaincre la stérilité, exactement. Merci.
Notre porte, waouh.
Ouais. Il semble que ce n'est pas le bon titre. Effectivement, et on va voir donc dans le témoignage de Jean-Jean que Dieu lui a donné une stratégie particulière qui a fonctionné. On découvre son histoire dans la rubrique « C'est mon histoire ». On se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir et le privilège d'avoir avec moi Jean-Jean. Hello Jean, ça va ?
Bonjour, c'est Evelyne.
Ça va bien?
Très bien, toi?
Oui, ça va très bien, merci. Merci d'être là sur ce fauteuil de C'est mon histoire.
Plaisir.
C'est chouette de t'avoir, surtout que tu viens nous raconter une histoire quand même assez personnelle. Tu viens de me raconter l'histoire de votre bébé miracle à ton épouse et à toi.
Oui.
Comment vous avez vécu ce temps d'attente et finalement cette grossesse qui tant attendue qui finit par arriver. Mm-hmm. Vous vous êtes mariés en 2011.
Oui.
Et vous avez projeté d'avoir des enfants tout de suite. Il n'y a pas eu forcément de temps d'attente. Vous vous laissiez le temps, mais le désir était de fonder une famille rapidement.
Exact. On était quand même âgés. je me suis mariée dans ma trentaine. Donc, c'est sûr qu'on se disait, bon, on ne va pas attendre trop longtemps. Mm-hmm. Et puis, aussitôt que ça arrive, on est prêt à accueillir ce bébé. Et puis, ça a été plus long qu'on avait pensé. Et puis... On a tranquillement, on n'était pas trop stressé par rapport à tout ça, mais on se disait ben on va commencer à regarder. Je sais que ma femme avait des fibromes, même avant qu'on se marie, on avait remarqué mm-hmm. Qu'il y avait une présence de fibromes. Et puis on s'est dit bon, on va vérifier avec le médecin. Ma femme a commencé un processus simplement pour s'assurer que sa santé soit OK. Puis mm-hmm. tranquillement, à l'intérieur du mariage, on a vu que les fibromes commençaient à grossir.
OK.
Et dès lors, ben le processus, tout ce qui a rapport avec les fibromes, c'est un processus aussi de fertilité.
Ouais, c'est lié.
Donc, ma femme a commencé son processus avec son médecin. Et puis, tranquillement, ils ont vu vraiment qu'il y avait plusieurs fibromes, des gros, des petits. Et ils ont pris une décision de... il va falloir peut-être se faire opérer pour ça.
OK.
C'est sûr que... à l'intérieur de la première année, on n'a pas trop stressé par rapport à ça parce que c'était quand même respectable, c'était pas trop gros. Mm-hmm. Mais rapidement, on s'est dit peut-être que ça peut être une problématique. Et puis le médecin a comme confirmé que les fibromes peuvent être une problématique, pas nécessairement pour avoir des enfants, parce qu'il y a des femmes qui ont des fibromes, qui ont quand même des enfants. Mais pour la croissance du bébé, si les fibromes sont trop gros, ça mm-hmm. peut être problématique. Et donc, elle a dû commencer un processus de fertilité.
D'accord. Elle s'est faite donc opérer, c'est ça?
Elle s'est faite opérer après mm-hmm. Après peut-être un an peut-être. Mm-hmm. Elle s'est faite opérer et puis c'est bien passé, belle opération. Et puis vous savez quand on a ces processus-là, on vous dit attendez 6 mois avant de commencer. Oui, c'est ça. Même de commencer à faire quoi que ce soit parce que c'est une opération. Elle se fait ouvrir l'utérus et tout ça.
Oui,
c'est
okay.
comme un peu comme un accouchement par césarienne. Mm-hmm. C'est un peu la même chose. Donc ils disent attendez que la sécrétrice se referme avant de...
Voilà, c'est ça aurait été risqué qu'elle tombe enceinte à ce moment-là.
Exactement. Et puis, c'est ça. Puis 6 mois après, en effet, ma femme, finalement, tombe enceinte. Mmh. Waouh, quelle joie, on est vraiment heureux. Mmh. Et on continue le ministère. Moi, j'avais commencé à faire du ministère. Et puis, tranquillement, quelques semaines après, peut-être 5 semaines après qu'elle réalise qu'elle est enceinte, mais elle a une perte.
Ah, ça, c'est dur. Hein.
C'était très dur.
La déception.
Oui.
Parce de la joie
exact.
À la tristesse.
Et nous, on était tellement heureux. Ma mère, on annonce ça à ma mère, était très contente. Et puis, quand on lui dit, mais finalement, ça va pas. Écoute, c'était comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Automatiquement, dans ces moments-là, on se culpabilise aussi. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mangé quelque chose qui valait pas? Qu'est-ce que j'ai fait?
Ouais.
Ça a été un peu difficile. Il a fallu que ma femme vive ce deuil-là d'une façon... à sa façon. Ma femme est très introvertie. Donc, c'est quelqu'un, à sa façon, il a fallu qu'elle vive ce moment-là, c'est ce deuil-là. Mmh. Et puis, on a continué notre processus, mais pendant qu'elle faisait son processus de fertilité, le médecin lui a dit, mais tout va bien, vous n'avez aucun problème, vous êtes en santé.
Okay. Là, c'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne, très bonne nouvelle. Uh-huh. Mais automatiquement, moi, je n'étais pas encore dans ce processus-là.
C'est ça.
Mais ma femme se retourne vers moi et me dit, Frédéric, ça va être ton tour.
Ah oui, parce que ça ne marche pas. Là, ça fait quoi, 2 ans à peu près que vous essayez d'avoir
c'est dans autour de la deuxième année.
Mm-hmm. Donc là, forcément, si ce n'est pas moi le problème, c'est qu'il y a un problème peut-être de ton côté.
Ouais, exactement. Et vous savez, l'homme, il y a un petit orgueil quelque part qui se dit, comment ça se... Non. Tranquillement, ça a commencé à être comme un peu intimidant de se dire, est-ce que j'ai vraiment un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose chez moi qui ne fonctionne pas? Est-ce que je suis malade? Et puis...
Les gens aussi, à ce moment-là, font plusieurs commentaires quand même. Vous n'avez pas d'enfant.
Exactement. C'est ça, après 2 ans, les gens commencent à te poser des questions. Et c'est souvent les gens avec qui tu te dis, on est quand même à l'aise. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, il me semble que tu es supposé de pouvoir le faire. T'es pas un homme. Qu'est-ce que c'est? Et vraiment, des commentaires qui peuvent être humiliants un peu. Et pour moi, c'était comme humiliant, mais en même temps, c'était des défis de me dire, non, non, vous savez pas quel Dieu que je sers. C'était vraiment ça qui était dans ma pensée, comme, vous savez pas quel Dieu que je sers. Autant fixé, vous allez fermer vos bouches. C'était comme un peu comme...
Un peu un challenge.
Ouais, parce que j'étais... mon histoire était un peu rocambolesque, la façon que ma femme est arrivée dans ma vie et tout ça. Donc, c'est vraiment un défi de vivre une vie où est-ce que Dieu, la même façon que je proclame que je suis un homme béni, puis que Dieu me bénit, que je suis appelé au ministère et tout ça, il fallait que Dieu se montre dans ma vie, dans toutes les facettes. Je ne compte que sur Dieu.
Oui.
Donc, il fallait que Dieu se manifeste. Et je me rappelle, à un certain moment, dans le temps, est-ce que ma femme me dit, ben, c'est à ton tour. Vas-y, Jean. Et puis là, je dis, moi, madame, je n'ai absolument rien. je la confrontais en disant, moi, j'ai rien. Et quand Dieu va vouloir. Puis je me tenais un petit peu sur ce... C'était une forme d'orgueil, puis en même temps, c'était une forme de foi que j'avais, que je dis, Dieu va le faire. On n'a pas besoin de s'affoler. Il y a des gens qui ont attendu 15 ans. Nous, on peut attendre un petit peu. Ma femme, c'est une femme, quand elle a quelque chose en tête, on y va, on va dans cette direction-là.
Dans ce domaine-là, les femmes, en général, on n'est pas très patientes.
Je
ne
veux pas dire ça, là.
Dans ce domaine.
Mais non, mais c'est ça, en fait. Et puis, mais je la comprenais aussi, parce que moi aussi, j'avais cette
soif d'avoir bien sûr.
Un bébé. Et puis, je me rappelle, j'avais été invité. Je faisais du ministère, puis je me posais des questions et tout ça. Puis, je me rappelle, j'avais reçu un verset... une journée comme ça, quelqu'un qui m'écrit et m'envoie un verset, les fils sont une récompense de l'Éternel. Pardon? OK, mais là, je fais partie des hommes de Dieu, des hommes que Dieu, que j'ai dédié ma vie, complètement offert ma vie à Dieu. Oui. Je veux voir le miracle de Dieu dans ma vie.
Cette récompense, elle est pour moi.
Je me suis réclamé cette récompense-là. J'ai dit non, ça ne se peut pas. Je ne vais pas recevoir de versets et puis ça ne s'applique pas dans ma vie.
Oui.
Si c'est dans la parole, ça doit s'appliquer pour moi.
Amen.
Et puis, je me rappelle, j'avais été invité à un temps de louange. Je me rappelle, c'était en Floride. Et c'était un événement de louange. Et puis, ils enseignaient sur la louange, ils faisaient des temps de louange. Et puis, on a été, et puis j'étais seul. Et puis, on a passé un temps d'adoration super merveilleux. Je dirigeais un temps durant ce culte-là. Mais à un temps précis, il y a un prédicateur qui est venu, qui a partagé une parole. Et il parlait sur l'histoire d'Anne. D'Anne et Elkanah. Oui. Anne qui semblait infertile, qui ne pouvait pas avoir d'enfant et tout. Et puis, il partage sur l'histoire et à un moment donné, il dit, lorsqu'un instant prophétique rencontre une adoration ou lorsque l'adoration rencontre un instant prophétique, le silence de Dieu est brisé. Il y a des paroles de prédication et tout ça qu'on entend des fois qui peuvent nous rendre complètement confus. Et là, tout le monde, il y a une euphorie dans la salle, mais moi, je suis comme, mais...
Ça veut dire quoi?
Qu'est-ce que ça veut dire? Et il continue à expliquer et puis il dit... Il dit, on va passer un temps d'adoration. Vous allez oublier tout ce qui est autour de vous, mais vous allez adorer Dieu avec un but bien précis. Et là, il part un chant. Puis le chant en particulier, c'était un chant qui parlait de la vie que Dieu, que Jésus nous donne. Il est mort pour nous, pour que nous, on ait la vie. Et là, il commence à s'exprimer et il commence le chant de louange. Et là, moi, je suis un invité. Pour moi, quand tu es invité, il y a un décorum. Tu t'assois d'une certaine façon, les pieds croisés. on se respecte et tout ça. Tu te lèves quand on t'appelle et tout ça. Donc, mais à ce moment-là, la louange commence et là, je perds mes repères. Je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais je commence à m'exprimer de façon... C'est comme si j'étais tout seul devant Dieu. À dire, Seigneur, là, je t'adore parce que je sais que tu es Dieu. Il n'y a rien qui est impossible devant toi. Et je commence à adorer, mais avec, souvent je le dis dans les chants, à plein gosier. J'oubliais vraiment tout, je pleurais, mais j'avais dans cette pensée, Seigneur, tu vas agir dans cette situation-là en particulier. Je veux voir ton miracle. Et c'était comme pour moi, Seigneur, viens me prouver ta force, ta puissance et ton autorité. Et après ce temps de louange-là, je ne sais pas pourquoi, je me suis levé de cette place-là, je me suis déplacé, je suis rentré à la maison avec une autorité, avec une confiance, avec une foi. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, on va se préparer, c'est fait.
Wow.
Et puis, je me rappelle, je rentre à la maison, puis ma femme me dit « Ah ouais, t'es sûre? » Je dis « Absolument! » Et puis, je me prépare, et tout ça, on se prépare, on fait ce qu'on a à faire. Mm. Et je me rappelle qu'après 3 jours, j'étais comme « OK, j'avais dit une semaine, mais là, bon... »
C'est ça, parce que tu es revenu avec comme une stratégie, en
oui,
fait,
vraiment,
vraiment divine.
Ouais.
C'était, voilà, on va avoir des temps d'intimité exact. Tous les soirs pendant une semaine. Au bout de 3 jours...
Au bout de 3, ouais, bon, c'est assez, là.
On
bon,
a compris.
J'ai la foi, je crois que Dieu l'a déjà fait. Et j'étais tellement, comme, je ne sais pas comment je pourrais exprimer à quelqu'un que j'étais assuré.
Ouais.
J'aime un passage dans la Bible qui dit « Je suis persuadé ». Et j'étais persuadé cette journée-là. Et puis, je suis rentré à la maison. On a fait ce qu'on a à faire pendant quelques jours. Et puis, un mois après, je me rappelle, j'étais au boulot. Ma femme m'appelle. Mais son introduction, c'est « Hey, ça va? » Je dis « Ça va? » Elle dit « Oh, je voulais juste te dire que Dieu l'a fait. » Je dis « Mais de quoi tu parles? »
Tu as fait quoi? Comme,
tu as fait quoi? Parce que là, elle dit « Ouais. » Et puis là, elle dit « Regarde tes messages. » Et elle m'avait envoyé un texto. Puis le texto, c'est la photo de son test, de grossesse. Et là, mais, tu sais, j'essayais de ne pas réagir, mais j'étais tellement heureux. Et là, j'étais avec mes collègues de travail. Là, je fais un bruit. Yes! Comme pour dire, ouais, yeah, my man. Donc, pour vraiment m'exprimer, pour dire comme, wow, oui, Dieu l'a fait. Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Et malgré qu'on a attendu, on était dans l'attente pendant 3 ans,
ouais.
Mais Dieu, dans un moment bien précis, avec une stratégie bien précise,
ouais.
Dieu l'a fait, j'avais pas besoin de m'affoler. Mais dans l'attente, dans la louange, dans l'adoration, Dieu s'est juste manifesté tout simplement. Et puis il l'a fait dans le temps convenable. Puis aujourd'hui, on a une petite fille, une belle petite fille.
Oui, elle a 7 ans,
elle
c'est ça?
Elle a 7 ans, elle s'appelle Jessie Elizabeth. Et c'est notre petite pépite d'or, de la voir grandir. Et c'est une belle responsabilité, c'est comme ça que je le vois. Ma responsabilité, c'est d'élever cet enfant-là pour Dieu, parce qu'elle doit être au service de Dieu.
Yes.
Une femme consacrée, sanctifiée.
Amen.
Pour servir à la gloire de Dieu, puis déjà de la voir grandir, de la voir s'exprimer, c'est vraiment un beau cadeau.
Ouais, c'est merveilleux. Merci, Jean, hein, parce que ben, habituellement, ce sont les femmes qui viennent témoigner de ce genre de choses. Et j'ai aimé avoir un point de vue d'homme, une fois, un regard d'homme sur cette situation. Et c'est extrêmement encourageant de voir que oui, dans ces moments-là, Dieu est fidèle, Dieu est avec nous. Et dans ces temps d'attente, il a fixé un moment, un rendez-vous que tu as su saisir. Tu t'es tenu devant son trône à la brèche et tu as saisi ses promesses. Merci beaucoup d'être venu dans C'est mon histoire.
Un plaisir.
Un témoignage qui, j'espère, vous encourage, vous donne de l'espoir. Vous voyez, Dieu vraiment peut passer de tellement de manières différentes. Et j'aimerais terminer avec un tout petit point. Peut-être que l'une des stratégies que vous avez sur le cœur en écoutant cette émission, eh bien, peut-être que c'est aussi l'adoption. C'est aussi une façon dont Dieu veut peut-être vous donner un enfant et ce ne serait pas un échec. Donc, ça peut être une des stratégies. Je ne dis pas que c'est la seule stratégie, mais ça peut être également une option que je voulais pouvoir souligner à la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir été avec nous. On croit avec vous, on s'attend avec vous que cette attente termine, que le bus finisse par passer et que vous puissiez monter à l'intérieur de ce bus. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Soyez bénis.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.